The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture. Une semaine sur deux sur Radio G, excusez-moi parce que j'ai bafouillé, ça me fait rire. Une semaine sur deux sur Radio G, donc les semaines paires. Alors, on est bien sur Radio G, on salue nos chroniqueurs qui sont absents, Seb, Anaïs, mais ils ont de bonnes raisons, surtout Anaïs.
Anaïs qui vient d'avoir un...
Ah, mais on ne dévoile pas sa vie privée, Pablo,
Rafa. C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique, c'est vrai. Alors, on est bien sur Radio G. Tout de suite, on va écouter de la bonne musique. Pablo, pour démarrer cette émission, tu nous as préparé quelques chansons.
Carrément.
Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai les Four Non Blondes, j'ai Bashung, j'ai Amy Winehouse, j'ai
Bowie. Oh, un petit Amy Winehouse.
Allez, c'est
sympa.
Parti. Moi, c'est Back to Black.
Back to Black.
Direct. On est bien sur Radio G.
Bang it, ma flare. Sur 101.5.
De toute façon, on va parler cinéma, on va parler de tout ce qu'on aime. Hein.
Carrément, cinéma, on va parler, on va parler de séries. On a deux séries à présenter.
Dis-nous quelle série tu vas nous parler.
On va parler de la série Fargo. Et puis, on va parler de la série Normal People aussi.
Ah ouais, moi, je vais parler de Normal People. Ouais.
Et puis, on va parler d'un. Je vous présentais un roman aussi, My Absolute Darling. Et puis, une BD. Tanan arrive.
Alors en fait c'est Bashung, parce que ça fonctionne pas Amy Winehouse.
Eh ben impeccable.
On est bien dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5.
On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze. On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent. Et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Peut-être que la nuit ne manque pas.
voilà, c'était Anna Bachung. Sur un trapèze dans Band Geek Mafia.
Merci Pablo.
Merci Seb.
Parfait-moi du micro. Parlons-moi du micro, nous la remettons pas vite fait.
Vous l'avez compris, nous allons parler de séries télé.
Yo.
Mais pas de Magnum. Alors Pablo.
Alors on a deux séries là.
Excellent.
Alors Fargo, ouais, Fargo, t'as beaucoup aimé. Hein.
Alors j'ai d'abord aimé le film des frères Cohen.
Clairement.
Et justement, ensuite la série.
Ah ouais, ouais, ouais. Ben, Fargo, il était une fois dans le Minnesota. Donc retour déjà dans le passé. En 1996, les frères Cohen réalisent Fargo, ce petit film policier qui prend place dans l'état du Minnesota, entre rapidement dans la légende. En 2013, la chaîne FX décline l'univers des Cohen en série télé, sous la direction de Noah Hawley. Encore peu connu à l'époque, le génial réalisateur de Légion recrute un casting impressionnant pour la première saison d'une série anthologique. C'est-à-dire que chaque saison est indépendante ou presque des autres. Appelé à devenir aussi culte que son illustre parent cinématographique. Nous sommes en 2014 et pour la première fois apparaît la phrase « running gag » d'ouverture de chaque épisode. « This is a true story ». Ceci est une histoire vraie. Les événements ont eu lieu dans le Minnesota en 2006. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les défunts, tous les faits ont été racontés tels qu'ils se sont produits. Bon, en fait, il n'en est rien. Les histoires ne sont pas vraies. Tu le savais, ça, Seb, hein, je crois. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr, ouais, ouais, mais ouais. C'est parce qu'en fait, on trouve la même chose au début du film des frères Cohen.
C'est ça. Et en fait, c'est très bluffant. Ce sont des fictions réalistes. Les frères Cohen avaient trouvé amusant de jouer avec le spectateur par ce clin d'œil aux faits divers, à la fois pour donner un côté réaliste à leur film, mais aussi pour l'aspect décalé et humour noir de leur scénario. Deux composantes de l'esprit Cohen qui planent sur la série. Je vous propose le synopsis de la saison 1, en 2014 donc. Dans le froid glacial de ce petit état, Lester Nygaard, agent d'assurance, ne profite pas vraiment de la vie, c'est le moins que l'on puisse dire. Moqué et maltraité par son ancien « camarade » entre guillemets de classe, Sam Hess, constamment humilié par sa femme Kitty et vivant dans l'ombre de son frère Chaz, Lester mène une existence pathétique. Alors qu'il patiente aux urgences, il fait la rencontre d'un homme mystérieux du nom de Lorne Malvaux, qui lui propose de tuer Sam Hess pour le venger. C'est à compter de ce malheureux pacte que les choses s'emballent et que la petite ville de Bemidji va connaître une vague de meurtres. Alors, Noah Hawley comprend immédiatement une chose en adaptant Fargo en série. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller du film, mais bien d'en saisir l'atmosphère et les codes. Il n'y a donc aucun besoin d'avoir vu le métrage original avant de vous lancer dans l'aventure. Deux duos antagonistes sont remarquables. Le duo meurtrier de Lorne Malvaux, interprété par Billy Bob Thornton, d'accord, que vous aviez déjà vu hein, dans The Barber.
Ouais, dans les films des frères Cohen, dans plusieurs films. Ouais.
Plusieurs films. Et toi, tu disais aussi
Intolérable cruauté.
Intolérable cruauté.
Avec George
Clooney.
Exactement.
Tout à fait. Avec George
Clooney. Et Catherine Zeta-Jones.
Yo. Et donc oui, des frères Cohen. Et là, en fait, qui a reçu le Golden Globe hein, du meilleur acteur pour son rôle. Hein. Et Lester Nygaard, interprété par Martin Freeman. Martin Freeman que vous avez vu dans Watson, le personnage de Watson dans la série Sherlock, ou bien sûr dans Bilbo.
Le Hobbit. Hein,
bien sûr. Donc, le premier est froid et machiavélique, tandis que le second est lâche et pathétique. Le second duo est celui des policiers. Molly Silverstone, qui est Alison Tolman, excellente, et Gus Grimley, interprété par Colin Hanks, que vous aviez vu en fait dans Jumanji ou dans la série Dexter, saison 6, le tueur de l'apocalypse. Voilà, tous les deux sont très intelligents, ils sont fin limiers et si humains, très sympathiques, très empathiques et émouvants. Je vous lis le synopsis de la saison 2, d'accord, 2015. La saison traite d'un incident qui s'est déroulé en 1979. Alors cette fois, on va à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, en 1979. On va carrément dans le passé. Qui a été plusieurs fois mentionné durant la première saison. ils se font eux-mêmes des petits clins d'œil. Elle met en scène l'esthéticienne Peggy Blomquist, interprétée par Kirsten Dunst, et son mari, un boucher du nom d'Ed Blomquist, Jesse Plemons, qui décide de couvrir leurs traces après le meurtre involontaire de Ryan Gerhardt, un des fils d'une famille criminelle locale dont la matriarche est Floyd Gerhardt. Pendant ce temps, Lou Solverson, qui vient de... Le shérif qui vient de rentrer du Vietnam, et son beau-père, shérif adjoint, pardon, et son beau-père qui est le shérif Hank Larson, enquête sur trois meurtres commis par Ray Gerhardt, tout en protégeant le candidat républicain aux élections présidentielles, Ronald Reagan, lors de son arrêt de campagne à Fargo. Mais au même moment, un gang mafieux de Kansas City cherche à mettre la main sur le business local. Or, la mort de Ray Gerhardt devient un personnage clé, en fait, hein, d'une guerre des gangs qui éclate. Bref, c'est le bazar, ça part vite en sucette. Je cite un extrait d'un article de Télérama. Avoir vu la saison 1 aide évidemment, mais Noah Hawley fait toujours preuve d'un remarquable talent pour dessiner des personnages étonnants, amusants, déclinaison réussie de stéréotypes pour la famille Gerhardt notamment, et immédiatement attachant pour la famille Solverson-Larson. Fargo tient un formidable équilibre entre drame, brutalité et comédie. Hausse des énormités proches du clownesque, souvent d'ailleurs dans les scènes de violence, des répliques à faire pâlir les meilleurs sitcoms, des personnages improbables. Par exemple, on a deux frères jumeaux, assassins muets, des frères Kitchen. Le tout sans jamais faire sortir des rails son récit. Tour de force propre au cinéma des frères Cohen, déjà accompli l'an passé. Donc, le bond dans le passé, enfin, offre une source supplémentaire de drame et de comédie. En 1979, l'Amérique va mal, le Vietnam vient de se terminer. La guerre froide a encore de belles heures devant elle. Et la crise pétrolière menace l'économie. Ronald Reagan fait campagne, l'individualisme est exalté, la violence banalisée. Sans trop en faire, les décors sont au poil, la mise en scène s'adapte. La photo est légèrement délavée et un split screen, écran divisé, très saillant, est utilisé à bon escient pour dynamiser les séquences musicales. Résolument funky. Donc la formidable bande-son de Jeff Russo se mêle sans un coup au titre des 70s. Évidemment, Kirsten Dunst, qui n'est sans doute même pas la peine de présenter, hein, est magistrale dans cette fausse blonde naïve. Donc enfin, je vous parle de la saison 3 rapidement. Saison 3, 2017. Cette fois, on est en 2010, dans le Minnesota. Emmett Stussy, un homme d'affaires renommé dans le monde du parking, vit une vie calme et opulente, tandis que son frère jumeau, Ray, mène une vie difficile et enchaîne les mauvais coups. Alors que Ray a blâmé son jumeau toute sa vie pour ses échecs, l'arrivée d'un personnage mystérieux va changer la donne. On retrouve tous les ingrédients de la série. Les trois stéréotypes de personnages. Les gentils intelligents. Ici, c'est Gloria Bergle, excellente Carrie Coon. Une policière courageuse et allergique aux technologies. Et réciproquement d'ailleurs. Donc, deux, on a les méchants, très méchants. Ici, c'est V.M. Vargas, visqueux et répugnant, comme une limace qui vous englurait dans sa bave. Et puis enfin, le troisième type de personnage, des idiots malchanceux. Ici, ce sont les deux frères jumeaux, les deux losers, Ray et Emmett Stussy, tous deux interprétés par le génial Ewan McGregor, qui se métamorphose pour l'occasion. Donc cette série nous interroge sur la morale et la raison. Comment le fait d'avoir des valeurs morales, ou de ne pas en avoir d'ailleurs, peut vous emmener vers l'intelligence ou au contraire dans la stupidité et la bêtise. En fait, la série semble vous démontrer qu'une intelligence rationnelle et pragmatique n'explique pas toute l'intelligence ou ne la réduit pas. Qu'une conduite éthique ou qu'un profond sens de l'empathie sont aussi des formes de pure intelligence. Bon bref, allez voir Fargo, actuellement sur Netflix. Merci de votre écoute. Et là, actuellement, vous écoutez Black Sabbath, hein, War Pigs. Vous êtes dans Bandit Mafia.
Deuxième série ce soir.
Yo, super.
Je parle sur Black Sabbath.
War Pigs.
C'est un sacrilège. Alors moi je vais vous parler d'une série vraiment. Enfin,
ça va t'inspirer.
Je vais vous parler d'un petit chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement.
Excellent.
Ça s'appelle Normal People. C'est passé sur France 5. C'est toujours disponible en replay, donc sur France TV, donc France 5. C'est Normal People. C'est une série irlandaise. Donc en fait, au cœur de l'été 2020. Elle est arrivée presque sans crier gare, cette série, proposée en France très rapidement sur Canal+, MyCanal. Cette mini-série irlandaise qui raconte l'histoire d'amour contrarié de deux lycéens, incarnés par un tandem d'illustres inconnus et programmée au beau milieu des grandes vacances. Donc sur le papier, Normal People, ça semblait voué à passer complètement inaperçu et à être chassé par le flot hebdomadaire des nouveautés. Sauf que le bouche à oreille a été très favorable et il a permis de renverser la vapeur. Il a transformé cette très belle romance insulaire en indiscutable succès. Et c'est vraiment un succès d'audience et un succès d'estime en plus. Donc, bonne nouvelle, le grand public français, c'est-à-dire nous tous, eh bien vous allez pouvoir le découvrir, ce trésor britannique, en 12 épisodes sur France 5, je le disais. Et vous allez pouvoir passer des soirées vraiment très chouettes avec Marianne et Connell, les deux personnages principaux. Alors, avant d'investir le petit écran, Normal People, c'est d'abord un roman.
D'accord.
C'est un roman éponyme, le deuxième de sa jeune autrice, la trentenaire Sally Rooney. Ce roman a paru à la rentrée 2018 dans les pays anglo-saxons et ce livre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et donc ça a été chaleureusement accueilli par la critique, traduit dans de nombreux pays, dont la France, où l'ouvrage, publié aux éditions de l'Olivier, comme le premier roman de l'écrivaine Conversation entre amis en 2019, environ 6 mois après la mise en ligne de la série, eh bien, il a largement bénéficié des honneurs faits à son adaptation télévisée. Voilà. Donc si l'on résume, à l'écrit comme à l'écran, Normal People, comme Sally Rooney, qui a coécrit le scénario de la série, sont devenus des phénomènes.
Excellent.
Alors les raisons de cet engouement, eh bien, ils sont légion. En premier lieu, il faut louer l'intelligence et l'acuité avec lesquelles l'autrice, que la presse anglo-saxonne a quand même désignée comme la Salinger de la génération Snapchat, ou encore la Jane Austen du précariat.
Excellent.
Eh bien, comment elles sont de les émois, elles sont de les abîmes et les souffrances de ses protagonistes. Comme elle, de jeunes milléniaux, née dans une petite ville d'Irlande et passionnée de littérature. De ce récit au long cours d'une relation amoureuse et des jeux de domination sociale et intellectuelle qui s'y perpétuent, les réalisateurs Lenny Abramson et Etty MacDonald ont tissé une fresque audiovisuelle d'une grande, élégance. Ouais. Une grande intelligence et une grande élégance. Un authentique bijou, porté par l'interprétation hors pair de deux comédiens principaux qui sont géniaux, Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, que la série a métamorphosé en star. Depuis, on les demande partout pour faire des films. Donc c'est une série autour de la... autour du consentement sexuel, du travail, enfin vraiment il y a eu un travail étroit aussi sur les scènes d'intimité, hein, pour que les scènes de sexe restent
montrables.
Ouais, montrables, et puis surtout pour que les acteurs soient pas gênés en fait.
Ouais,
voilà, pour que ce soit pour que ça reste un petit peu
jouable,
post-MeToo quoi.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors les fans peuvent se réjouir parce que tournée au printemps 2021 en Irlande, l'adaptation télévisuelle de Conversation entre amis, donc le nouveau roman de Sally Rooney, c'est une étude de mœurs, hein, en forme de mariage à plusieurs, est attendue dans le courant de l'année, hein, dans les pays anglo-saxons. Et quant à Beautiful World, Where Are You, un nouveau roman paru en septembre, là, en langue anglaise, c'est d'ores et déjà un best-seller, donc voilà, une autrice à suivre, hein, et une série à voir. Hein, je vous le dis tout de suite, je vous le rappelle tout de suite.
Carrément.
Allez voir Normal People sur France 5, c'est france.tv/. Du lycée à l'université, les amours contrariés de deux Irlandais, une pépite au succès phénoménal, outre-Manche, adaptée d'un roman de Sally Rooney. Voilà.
Ouais, ça donne franchement envie.
Moi, j'ai rarement vu une série aussi bien.
Ah, c'est génial. Donc, tu la mettrais dans ton top 10, quoi.
Ouais.
Trop bien.
Je pense. Ouais. Alors après, il faut apprécier ce genre de série. Hein,
ouais,
c'est,
tout à fait. Mais une série humaine, quoi, en fait, très, très proche, puis très actuelle, en fait, aussi. Quoi.
C'est ça. En fait, c'est l'interprétation des deux acteurs principaux, déjà, qui est hors pair.
D'accord.
Et en fait, cette interprétation, elle dit avec subtilité les émois et les abîmes des deux personnages, en fait.
Ouais, excellent.
Marianne et Connell. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très vrai. Enfin, voilà quoi. C'est Normal People, c'est les gens normaux.
Bah ouais.
C'est la vie normale des gens normaux, mais impeccable. C'est pas ennuyeux du tout.
Ah non, génial. Ouais. Génial.
Voilà, Pablo.
Eh ben, c'est cool. Ça, tu nous as bien alléché.
Moi, je vous conseille de la regarder surtout.
Yo,
voilà. D'ailleurs, je vous mets un morceau de Kerenan. Alors, Kerenan, c'est une chanteuse française, parce qu'on entend ce morceau à la fin d'un épisode de Normal People. Karenan avec Strange Weather, un titre que l'on peut entendre à la fin d'un épisode de Normal People.
Eh ben génial, cette petite série là. Tu nous as vraiment.
C'est une belle série. C'est quasiment c'est du cinéma. C'est ouais. Tellement bien filmé.
C'est ça qui est beau.
C'est très beau. Alors Pablo, on va passer tout de suite à la suite, hein, ouais. C'est-à-dire à ton livre, c'est ça, hein,
ouais. Alors écoute, ouais, je vous propose un livre qui s'appelle My Absolute Darling de Gabriel Talent. C'est aux éditions Poche Gallmeister, qui est sorti en 2018 à l'édition française. C'est vraiment une caresse en forme d'uppercut, ce livre.
Ah, ça c'est un peu un oxymore.
C'est un peu un oxymore, mais vraiment tout le livre est basé sur l'oxymore. Sur vraiment, on est dans des états hyper contradictoires quand on le lit. Ce roman m'a été offert par mes amis Sté et Julie, à qui je dédicace cette chronique d'ailleurs. Merci. Alors, je cite une petite phrase de François Bunel, qui écrit dans la préface du livre. Il y a donc des romans comme ça, atroces et magnifiques, dangereux, dévastateurs, qui vous nouent l'estomac dès les premières pages et vous poursuivent pendant des années. Fin de citation. Je vous lis le résumé. À 14 ans, Turtle Alvaston arpente les bois de la forêt dans le nord de la Californie, avec un fusil et un pistolet pour seul compagnon. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle, dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie familiale est confinée au collège et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace, jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour, où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Donc My Absolute Darling a été le livre phénomène de l'année 2017 aux États-Unis. Ce roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme marque la naissance d'un nouvel acteur, un nouvel auteur pardon, au talent prodigieux. Je vous cite une citation, je vous donne une citation de Stephen King. Le terme de chef-d'œuvre, entre guillemets, est bien trop galvaudé. Mais il ne fait aucun doute que My Absolute Darling en est un, dit Stephen King.
Waouh!
Quand même. Donc, ce roman, My Absolute Darling, se parcourt comme un cauchemar, non pas terrifiant, mais nauséeux et angoissant. Et pourtant, perversement attractif. Parfois, la violence du père, Martin Alvaston, vous explose à la gueule. Je préviens, âme sensible, s'abstenir, car il est question de tabassage en règle, de viol parfois, et d'une constante emprise psychologique. Autant de violences infligées à cette adolescente Julia ou Turtle, qu'il appelle d'ailleurs sa croquette. Tout l'art du romancier Gabriel Talent est de ne pas tomber facilement dans les clichés. Ses personnages sont subtils et complexes. Par exemple, Turtle est à la fois une victime et en même temps une nana badass, comme une Lisbeth Salander américaine, vous savez, dans la saga suédoise Millennium. C'est une guerrière de la nature. Elle a quelque chose de la chamane et elle est indomptable. Elle est dure comme le roc et pourtant, elle va se découvrir un cœur au contact de Jacob, Brett ou Cheyenne. Là où l'écrivain est très fort aussi, c'est qu'il oscille entre réalisme des descriptions d'ambiance qui nous sidèrent et parfois des allusions. Parfois, il suggère plus qu'il ne dit, nous laissant le soin de comprendre par l'imagination. Bref, un superbe roman dark, un diamant noir à ne pas rater. My Absolute Darling de Gabriel Talent, je répète, aux éditions Poche Gallmeister 2018.
Merci, voilà, merci Pablo.
Merci à vous.
Ah bah, tu vois, on finit pile sur le morceau de Janis Joplin.
Ouais, c'est qui était mortel. Ouais.
C'est bien préparé quand même.
Yes, on est bon. Hein.
Merci Pablo. Bah, écoute, ça n'a pas l'air drôle, mais bon, ça a l'air quand même pas mal.
Mais de la bonne littérature.
Voilà.
Ouais, clairement.
Alors, un petit morceau pour faire plaisir à Paul.
Yo.
On va écouter Vald.
Allez.
Vald, c'est un rappeur featuring Orelsan. Ah, Péon dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Chercheur de minerais officiel, hors marron sur la mobinelle, l'architecte tire les ficelles, je suis VCS qui part en ficelle, je revends tout ce qui sort de la mine, pour autant ai-je les mains sales, RAF d'avoir pas de vie, les instants que j'aspire les pions à s'acharner, plus secret qu'un agent secret, je diffuse une mentale avec laquelle je suis pas d'accord, chercher des diamants toute sa vie c'est brosson, j'espère refaire surface avant ma mort, et montrer au monde autre chose qu'un rappeur capitaliste, c'est mignon de jouer le poète libre, alors qu'aucun mot ne vient sans un chiffre, comme tous les autres je me tue à la tâche, pour avoir une voiture, pour avoir une baraque, pour être propriétaire et partir en voyage quand j'aurai 60 ans qui sera temps d'être malade. Tu parles d'un rêve de malade, non plus qu'une famille là c'est l'escalade. Vers le vrai bonheur, le fameux Saint Graal. Après ça y'a que le plaisir anal. On croit et les autres c'est le bon chemin. On est indépendant, on est souverain. On extrait les pierres de la montagne comme avant, mais là c'est nous qui avons tous les comptes en main. Alors j'acquiesce, mais finalement on fait tout pareil, juste gagne plus. La paix c'est pas maintenant. Et si j'ai la flemme, faut que je pense aux autres. Va te faire, tu me ralentis, j'ai trop de carrière à mettre à sec avant la nuit. Gros j'ai la famille, j'ai mon cadet, j'ai mon pack à mettre à l'abri, c'est ce que tu vois, je veux dire. En chemin, j'ai le blues du péon, sa mère. Je peux pas mentir, mec, les miens galèrent, c'est pas possible.
Que les miens galèrent, c'est pas possible, subis la pression. J'ai mal au beat, tous les jours, je m'entraîne. C'est Charlie, je suis pas prêt de redevenir anonyme. Je fais que de creuser, je fais que de creuser. Je trouve des pépites et des squelettes. J'ai dû mourir, j'ai dû renaître. J'ai pris le poison pour le remettre. Hein.
Transformer les j'aime en j'aime, 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 transformer tes chaînes en fer. Fais-en des chaînes en j'aime. Même enchaîner j'enchaîne. Même enchaîner j'enchaîne. Prêt, péon, prêt, péon, 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 prêt, prêt, péon, prêt, péon, péon, prêt, 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 péon, prêt, péon, 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 prêt, 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 péon, prêt, péon, 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 prêt.
Plus gagner, plus j'ai peur de perdre. Plus gagner, plus j'ai de chance de perdre. Je mets toute la pression sur moi-même, sable dans les somnifères de ma mère. J'ai des commentaires et je m'inquiète. Je suis rassuré quand je vois ta tête. Demande pas mon avis si tu t'énerves quand je dis que c'est de la merde. Je suis né sur internet, je mourrai sur internet. Je fais l'argent d'internet, je suis la pute d'internet. Internet, 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 j'en peux plus de vivre à travers ce putain d'internet. Méchant comme internet, grandir sur internet. Chanter du Michael après les Big Never Net. Je suis pas dans le game, je suis seulement dans les paramètres. Le genre de pote qui fait pas tourner la manette. Je suis dans les stratagèmes, je suis prince de Machiavel. Je suis la bête à trois têtes, je suis jamais rassasié. Tous les jours je me dis demain j'arrête. Quand c'est les autres, tu fais monter la mayonnaise. Quand ce sera toi dans la sauce, tu feras moi les chefs. C'est bien t'es seul dans un jet, personne sait rien si personne te respecte. Si ta meuf t'aime pour ce que t'es reste avec, si elle t'aime parce qu'elle a vu des paillettes, t'as plus qu'à prier qu'elle croit jamais Drake. Ou vu que c'est une pute, n'importe quel mec. Face à la réalité, il a fallu repenser tous mes rêves. Tout ce qui les intéresse, c'est des montages de leurs vacances sur de l'EDM. Personne veut rester derrière, personne veut jouer les choristes. Être anecdotique, j'essaye de dire des vrais trucs. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est des gossips. Pour donner la vie, faut jouir, ça doit vouloir dire profite. Marre de rendre l'amour des trucs toxiques. Besoin de nouveaux kiffs quand le système dépasse la logique.
Transformer le j'aime en j'aime, j'aime. 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 Transformer tes chaînes en fer. Fais-en des chaînes en j'aime. Même enchaîner j'enchaîne. Même enchaîner j'enchaîne. Prêt, péon, prêt, péon, 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 péon. Prêt, prêt, péon, prêt, péon, péon. Prêt, 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 péon, prêt, péon, péon, péon. Prêt, 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 péon, prêt, péon, péon, péon. Prêt.
Voilà, c'était Vald et Aurel San dans Bande Geek Mafia.
Ouais, très bon.
C'est pas mal, hein?
Ouais,
j'aime bien ce titre.
Ouais, moi aussi, clairement.
C'est vrai, moi je le trouve bien, bien ouais. Péchu.
Et donc c'était pour Paul.
Creature Shock Radio FM. Alors ce soir, je vais vous parler YouTube, mais aussi Instagram.
Oh yes!
Insta.
Allez, Insta.
Alors, très simplement, d'abord, Margot Burvin. Alors, pendant 5 ans, elle dit qu'en histoire de l'art, ils n'ont jamais étudié une seule femme artiste. Donc, comme hier, c'était la journée internationale des droits des femmes,
oui.
Il faut qu'on en parle. Alors, et en fait, Margot Burvin, pendant le premier confinement, elle a franchi le pas. Du coup, elle a décidé de rétablir l'équilibre sur les réseaux. Elle est passionnée d'histoire de l'art, donc vous avez compris, elle a investi Instagram. Et depuis mars 2020, donc le confinement, elle livre du contenu pédagogique, inspirant, consacré aux femmes qui font et qui ont fait l'art. Voilà.
Génial.
Elle est inspirée par les Gender Studies, hein, développées dans les années 70 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et elle aborde l'œuvre et la vie d'artistes, célèbres ou non, avec son regard féministe, universitaire et contemporain.
Ouais. Trop bien.
Alors elle dit qu'elle avait envie de raconter leur histoire, leur démarche dans toute leur complexité, sur un temps long, sans le montage serré ni les blagues du format vidéo YouTube. C'est pour ça qu'elle est sur Insta. Mmh. Donc une fois par mois, Margot Burvin s'adresse face caméra aux curieuses et curieux pour brosser le portrait d'une peintre, plasticienne, photographe, etc. Un document visuel à l'appui. Un peu comme si la guide d'un musée venait vous murmurer à l'oreille et qu'on pouvait appuyer sur replay pour reprendre, pour prendre des notes, picorer dans la bibliothèque mise à disposition et naviguer dans les stories, les posts plus courts, visite d'ateliers, compte rendu d'exposition, etc.
D'accord.
Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de découvrir des artistes méconnus, ouais. comme Romaine Brooks, par exemple, une peintre richissime à la vie rocambolesque, qui a notamment portraituré la communauté lesbienne de Paris pendant les années folles. Bon, elle est restée complètement hermétique à l'art moderne et elle a été marginalisée dans les années 40 car elle était antisémite.
Ah.
Mais voilà, on redécouvre comme ça des artistes oubliés. Margot Burgvin. Instagram.
Ben ouais, ça a l'air chouette.
C'est très chouette.
Super, super, super.
Alors, on retourne sur YouTube, parce que d'habitude, on parle de chaîne YouTube, avec cinéma et politique, Pablo.
Ah ouais.
Eh oui, cinéphilie.
Yes. Eh bien, et original, hein, tu disais.
Ouais, c'est pas mal, tu vois, vous allez voir. En fait, la créatrice de cette chaîne YouTube, c'est une cinéphile formée à l'audiovisuel, hein, qui Clémentine, elle s'appelle. Elle a deux passions, le cinéma et la politique. Et en toute logique, hein, après un galop d'essais plus militant, avec sa précédente chaîne YouTube baptisée Le Labo de la Gégiste, elle lance Cinéma et Politique en 2019. Alors, elle considère le film comme un objet social, politique et historique.
Oui, voilà, donc ça c'est intéressant quand même.
Voilà, c'est un peu ça l'originalité.
Carrément.
Alors au départ, la première vidéo réussie à propos du western spaghetti quand même. Parce que c'est pas facile de faire une vidéo réussie sur le western spaghetti en parlant pour parler de politique.
Eh bien c'est ce que j'allais te dire.
Eh bien, c'est plutôt réussi, voilà, parce qu'elle nous dit ce que le genre dit des contestations politiques et sociales de la fin des années 60.
Et ouais. En fait.
Alors les suivantes, hein, les vidéos suivantes balayent large, de l'inspecteur Harry... Au chagrin et la pitié d'Ophuls, toujours analysé avec rigueur pour expliquer les coulisses, le contexte et l'impact. Et en différé par rapport aux autres chaînes de ciné, hein, Cinéma et Politique donne donc rendez-vous tous les deux mois et demi, le temps nécessaire à Clémentine pour réaliser une seule vidéo avec tout le travail de documentation, d'écriture, de réalisation et de montage. Donc elle fait ça vraiment bien.
Ouais, il y a un travail... très, très minutieux, hein, quand même.
C'est
hein,
ça, université. Ouais. Et donc la vidéaste, elle assume de prendre le temps, autant dans le format, puisque ça dure en moyenne 30 minutes hein, par vidéo, que dans l'enchaînement des séquences. Elle aime laisser vivre les archives, les images, faire des pauses. Voilà. Donc c'est assez agréable.
Super.
Alors, s'il ne fallait voir qu'une vidéo, la toute première, hein, une fois n'est pas coutume, hein, parce qu'en général, ce n'est pas forcément la meilleure, mais parce que toutes les autres sont aussi passionnantes.
D'accord.
La première, elle est consacrée au Spartacus de Stanley Kubrick, 1960. Wow. Spartacus, comment on passe de l'icône marxiste au héros américain.
Excellent. Excellent.
Et ça raconte comment, d'un scénario à la tonalité franchement communiste, hein, écrit par Dalton Trumbo, le film a été peu à peu corrigé pour devenir un étendard du rêve américain, du capitalisme et d'un certain puritanisme.
Ah oui.
Cinéma et politique sur YouTube.
Eh ben parfait. Hein.
Et pour finir, Pablo, je te l'ai promis, et tout le monde s'en fout.
Ah, voilà.
Alors ça, vous connaissez certainement cette chaîne YouTube, et tout le monde s'en fout. Parce que derrière tout le monde s'en fout, il y a deux amis et une vraie success story qui commence dans une cave.
D'accord. Ah ouais.
En 2017, les auteurs-réalisateurs Fabrice Leboni et Axel Latuada sont un peu en panne de projet. Ils créent un soir d'ennui un personnage interprété par Axel pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur, la place des femmes. La vidéo fait le buzz. Et donc, afin de maintenir le cap, ils s'entourent. Hein, le frère de Fabrice, Marc, journaliste, les rejoint pour travailler à l'écriture. Puis, par le producteur, Christophe Baudouin. Ils sont aujourd'hui une quinzaine autour du projet.
Ah, quand même. Hein.
Alors, c'est une chaîne de sensibilisation.
D'accord.
Qui traite de dissonance cognitive. Explique Axel, le principe, la mise en scène d'un personnage bourré de contradictions et de paradoxes pousse le spectateur à s'y confronter. Donc chaque épisode explore ainsi des concepts absolus comme la guerre ou le racisme, des thèmes liés à l'écologie ou traite des sujets plus individuels comme l'estime de soi ou les émotions. Celui sur les émotions, il est très bien.
Ah, très bien.
À la fin des vidéos, des solutions sont proposées. L'idée de la chaîne, c'est de pouvoir donner du pouvoir, expliquer que c'est la merde dans tous les domaines, mais qu'on a une marge d'action.
D'accord.
Explique Axel.
Tu veux dire proposer soit des pistes de réflexion, soit des solutions.
En fait, on ne reste pas sur du négatif.
Ouais,
ça, c'est vachement bien.
Et pas seulement sur des questions. Il se mouille un peu quand même.
Ouais, exactement.
Très bien.
Et puis surtout, ça fait du bien de voir qu'il y a aussi des solutions. Parce qu'avec tout ce qui nous tombe dessus, c'est toujours négatif.
C'est ça. Hein,
alors qu'il y a des gens qui font des choses, des gens qui créent, des gens. Voilà.
Qui créent, qui inventent, qui proposent des choses.
Et donc ça fait du bien. Alors s'il ne fallait voir qu'une seule vidéo, ce serait celle portant sur la vérité.
Yo,
sujet de philo,
eh ben dis donc.
Qui explique que chacun se construit la sienne et qu'à partir de là, personne n'a raison.
Et voilà.
Et donc tout ce qu'Axel a envie de transmettre avec sa chaîne, eh ben, c'est faire un pas de côté, arrêter d'essayer d'avoir raison et écouter les autres. Voilà.
Carrément.
Ça s'appelle Et tout le monde s'en fout.
Et tout le monde s'en fout.
Sur YouTube.
Bon, bah alors du coup, on avait Et tout le monde s'en fout.
Ouais. Cinéma et politique.
Cinéma et politique.
Et puis la chaîne, enfin l'Insta de Margot Burgvin.
Voilà, mais voilà. C'est parfait.
Ah, c'est pas mal, hein. Je vous donne envie d'aller regarder tout ça.
Ouais, c'est sympa.
Je le sens.
Je sens qu'on va passer encore du temps sur nos écrans.
Est-ce que tu as envie d'écouter du ska?
Allez.
Parce que moi, j'ai redécouvert ce petit morceau de NoFX. NoFX, c'est un groupe de punk ska américain.
Ouais, ouais.
Et ils existent toujours, d'ailleurs. Et je réécoutais l'autre jour NoFX. Et je suis tombé sur ce petit titre qui s'appelle Johnny Appleseed.
Hein.
Johnny Pépin de Pomme, en fait.
Ouais.
Et voilà, c'est assez bien sympa sur Band Geek Mafia. Sur...
shit about Johnny anyway. He's down for the cause, homes. He's making sure his garden grows. He'll plant a seed in every town he goes. Fertilizing the countryside to put his top in with insecticide. Johnny Carcon is just what we're looking for. He's very straight, very gang, very Hispanic. He'll do just fine. When digging holes, he'd be wearing a glove. He'd go into the shed without a trouble any job. He'd plant the seed, making sure it's sown. He'd go into the shed and he'd start hoeing with a hoe. Garden grows, yeah, yeah, yeah. Water the yard with a gardening hose. Room in the backyard, or whacking a weed. Yeah, yeah, yeah. The contemporary Johnny Appleseed.
Et voilà, c'était NoFX avec Johnny Appleseed dans Band Geek Mafia.
Trop bien.
Pablo, une petite BD alors?
Ouais, une petite BD alors.
Ah, je vois que ça s'appelle Tananarive.
Tananarive, oui. Alors, une BD de Marc Asselsal et Sylvain Vallée. Elle fait 120 pages, édition Glénat 2021. Bon, je vous parle un petit peu de la quatrième de couverture. Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire, en retraite, va partir à l'aventure pour la première fois de son existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les traces d'un hypothétique héritier. Au volant d'un coupé qui n'avait jamais quitté le garage et accompagné d'un curieux passager, il va découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres et sur soi-même. Donc vraiment une BD qui est très sympa, avec un graphisme beaucoup dans les tons, comment dire,
assez coloré, hein,
assez coloré, un graphisme très très sympa, très fouillé, et vraiment un scénario, voilà, une BD assez intimiste qui vous emmène dans le nord de la France, très sympa.
Et t'as découvert ça comment?
Un petit cadeau à Noël.
Ouais.
Et donc voilà, c'était très sympa, une belle surprise.
Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et ça, c'est cool.
Et donc ça, ça coûte quoi? Ça coûte même pas 20 euros, cette petite BD-là?
Ouais, elle doit être dans les 20 euros.
Aux éditions Glénat?
Aux éditions Glénat, donc, je répète, Marc Asselsan et puis Sylvain Vallée, 120 pages.
C'est pas un peu comme les vieux fourneaux, là, les retraités là, qui vivent l'aventure?
Il y a un petit côté comme ça, ouais.
Ça fonctionne bien?
Ouais, avec le personnage d'un mythomane qui est très drôle et très, très haut en couleur. Donc, chouette.
Il va y avoir une suite hein, au film les vieux fourneaux.
Ouais.
Il va y avoir un deuxième épisode.
Ouais, ça va être sympa.
Allez, on écoute Wax Taylor.
Wax Taylor, qu'est-ce que c'est
là? Sur Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5.
Now listen to me, all of you. Qu'est-ce
qui s'est passé?
Qu'est-ce-là? Il me semble que... Ah oui, c'est déjà fini. Bah, ouais, c'était l'heure, qu'est-ce-là?
Il y a un bug ou c'est déjà fini?
Bah non, tu vois.
Oh là. Il nous a surpris. Alors, on va tout vous dire. Pablo et moi, on a vu Wax Taylor au Shabada il y a quelques années. On était en train d'en parler.
Et on l'avait même interviewé.
Ouais,
on a interviewé. Avec son groupe de rap, d'ailleurs. Et c'était très sympa.
Ouais,
et donc on était en train de parler.
De ça,
et on s'est laissé emporter. Voilà.
Qu'est-ce-là? C'est tellement joli.
Voilà.
Écoute. Alors là, rien à voir, c'est moins joli.
Qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Eh ben, je vais vous parler du dernier Rockard. Et en couverture, on a le groupe Ghost. Alors, le groupe Ghost, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de heavy metal suédois. Alors, au début, c'était plus heavy, un peu sombre. Aujourd'hui, c'est devenu carrément pop.
C'est vrai, c'est très pop, ouais.
Mais bon, ça reste quand même du métal. Alors, je le mets en fond sonore pendant que je vous parle du dernier Rockard.
Bon, par contre, ça vaut le coup pour le show, hein, parce que leurs costumes sont hauts en couleur, ils sont magnifiques.
Ah oui, en concert, ouais.
Et en concert. Bon, après, c'est léché. Hein.
Là, c'est le dernier titre, Call Me Little Sunshine. Yo. Ah, le son est bon. Alors, le dernier Rockard avec Ghost, le fantôme de l'Impera aux couvertures. Impera, c'est le titre du dernier album. Alors, Rockard, c'est un magazine de rock, de hard rock, de heavy metal. C'est tous les mois. Alors, on n'a pas d'action hein, dans le magazine, c'est juste que c'est vachement bien.
Ouais, il est bien.
Et puis surtout, on va en profiter juste après pour vous parler du Hellfest.
Ouais.
Alors, dans ce numéro donc, du mois de mars 2022, numéro 229, il y a vraiment plein de choses super. Alors bien sûr, il y a les chroniques des albums qui sortent en ce moment. Hein, et il y en a un peu moins que d'habitude, parce qu'effectivement, avec les différents confinements, tout ça, il y a beaucoup de groupes qui reportent les sorties d'albums, voire les concerts. Mais là, ça va s'arranger. Espérons.
Ouais.
Alors, on a des hommages. Par exemple, hommage à Bon Scott, avec toute une rétrospective sur les derniers mois, les derniers jours de la vie du premier chanteur d'AC/DC.
Ouais.
On a une enquête vachement intéressante, c'est sur être disquaire indépendant en 2022. C'est pas forcément évident.
Non, surtout indépendant.
Acheter des disques. Pour ceux qui en achètent encore, parce qu'évidemment, il y a toutes les plateformes, Spotify, Deezer et autres. Mais il y a encore des amateurs, comme moi, par exemple, de vinyle.
Ouais, tout à fait.
Même s'ils coûtent de plus en plus cher.
C'est clair. Même de CD, en fait, hein, quand tu vas voir l'objet. Mais c'est vrai que les vinyles, ouais.
Mais le son est bon.
Le son est excellent.
Flashback, alors Trouble, c'est un vieux groupe de stoner doom américain qui est un peu oublié en Europe. C'est un des pionniers du doom. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, de remettre en avant comme ça aussi des groupes qu'on a un peu oubliés.
Ouais.
Ce sont des précurseurs, en fait, hein, de toute une scène stoner récente. Ouais. Et il y a aussi dans Rockard la Metal Tech idéale. Alors, c'est-à-dire que c'est des thématiques.
D'accord.
Et on revient sur ce mois-ci sur la France des années 90. Il y a les meilleurs albums de groupes de metal français des années 90.
Hello.
Donc, il y a Loot Blast, il y a No One Is Innocent, Mass Hysteria. Ouais. Enfin, ouais, plein de super groupes. Ah.
You will never walk alone. You can always reach me. You will never ever walk.
Donc un magazine de qualité, très très bien imprimé.
Ouais, il est carrément
très
beau.
Très beau.
Ouais, franchement, c'est un super beau magazine.
Alors après, il faut aimer le métal parce que ça fait un peu peur. Parce qu'en couverture, on a quand même Papa Emeritus de Ghost, donc qui est un peu un prêtre satanique. Et en quatrième de couverture, on a la Destruction qui nous offre la pochette de son dernier album, où une espèce de zombie en train de baver.
Ouais. Voilà. Donc, ouais, mais c'est toujours très léché, très, très chiadé, c'est super beau. Bah, c'est comme... C'est comme Hellfest en fait quand on y va quoi.
Eh oui, alors on va en parler dans pas longtemps.
C'est ça, c'est pas mal.
Voilà, c'était Ghost avec Call Me Little Sunshine dans Bande Geek Mafia.
Très bien. Et donc, tu nous parlais de Rock Hard, ouais, qui est vraiment un magazine éclectique sur le métal, qui est vraiment sympa, quoi.
Ah oui, moi, j'apprécie toujours de le lire tous les mois.
C'est assez large, quoi. Ça permet
Il y en a pour tous les goûts. Hein. Ouais, ça va du rock, vraiment le rock.
Ouais, tout à fait.
Même parfois un peu pop, jusqu'au death metal ou black metal plus violent, mais en passant par tous les styles. Donc, c'est bien sympa.
Mais alors, on s'était dit.
Qu'on allait parler peut-être du futur Hellfest, parce que depuis 2 ans, on n'avait pas de Hellfest.
Non.
Voilà. Et donc, cette année, il y a 2 Hellfest.
Et cette fois, il y en a 2. Il y a 2 week-ends. Et...
Donc, il y a le week-end du 17 juin, 17, 18, 19.
C'est ça.
Donc, vendredi, samedi, dimanche. Et puis. La semaine suivante, ça dure 4 jours.
4 jours.
C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Une sorte de rattrapage, là.
Ouais.
Et donc, on s'était dit qu'on allait se faire, dans 15 jours,
une émission spéciale Hellfest.
Voilà.
Pour se faire plaisir, pour vous faire plaisir.
Déjà sur le premier week-end.
Sur le premier week-end, on va vous faire découvrir les têtes d'affiche, nos groupes coup de cœur, en fait.
Les morceaux.
Qu'on aime bien.
Donc, voilà.
Et on fera peut-être une deuxième émission pour le deuxième week-end.
Bah ouais, parce que là, quand même, ça vaut le coup, quoi.
Ouais, ça vaut le coup. Et puis, il y a plein de groupes vraiment géniaux. En plus, comme tu disais pour Rock Hard, c'est vrai pour le Hellfest, il y a tous les styles. Ça va clairement. Du punk hardcore au heavy metal.
C'est clair. Maintenant, la difficulté, ça va être choper les billets. Alors, ceux qui avaient des billets pour l'année dernière, ils les gardent.
Fait, le problème, c'est ça, c'est que la plupart des gens, ils ont leurs billets depuis 1 an, voire 2 ans.
C'est ça. Donc là,
il n'y en a pas beaucoup en vente. Ouais. Et ceux qui sont en vente, ils coûtent cher.
Ils coûtent très cher et c'est pas évident.
Alors, il faut tomber sur quelqu'un qui n'y va pas. Tu vois, qui a les billets, mais qui ne peut pas y aller.
Voilà.
Ça arrive, hein.
Il faut pousser quelqu'un dans l'escalier.
Donc, dans 15 jours, on vous promet, on fait une émission spéciale Hellfest. Le plus dur, ça va être de se mettre d'accord sur les groupes qu'on va diffuser parce qu'on pourra pas tout passer.
Bah non, mais on essaiera de faire une petite sélection.
On va regarder, la playlist, enfin la setlist plutôt. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire une première partie d'émission sur quelques groupes du vendredi, puis ensuite quelques groupes du samedi et enfin quelques groupes du dimanche.
Tout à fait.
On essaye de balayer tout le week-end.
Ouais, sur les 3. Parfait.
Et puis on choisit chacun un groupe.
Ouais.
Si Seb est là, il en choisira un aussi.
Ouais,
voilà. Donc ça fait 2-3 groupes par jour.
Ouais.
Comme ça, on peut les diffuser, les écouter et puis en parler aussi.
Exactement.
Dire pourquoi on les a choisis.
Ouais, tout à fait.
Pourquoi il faut aller les voir en concert.
Tout à fait. Ce sera sympa. Surtout que là, on a des groupes qui reviennent.
Oui, alors il y a des groupes qui annulent, comme Face No More.
Voilà, c'est ça.
Par contre, il y en a d'autres qui viennent les remplacer, comme Gojira. Donc,
ça peut être sympa. Là, je crois qu'il n'y a pas il y a pas perte au champ.
Donc, le Hellfest se débrouille toujours pour remplacer les groupes absents. Ça va être bien.
Rassure-moi, il y avait Metallica qui était prévu.
Ah oui, ça c'est le deuxième week-end.
Ça c'est le deuxième week-end, on est d'accord.
Ouais, ouais.
Donc ça c'est un événement, il faudra quand même en parler.
C'est un événement, c'est la première fois que Metallica vient au Hellfest.
Ben ouais. Ils étaient tellement chers, tellement inaccessibles que c'était inimaginable.
Il y avait 2 groupes inimaginables, Metallica et AC/DC.
Ouais.
Et là ils vont faire Metallica, donc AC/DC ça va devenir possible.
Voilà. On se dit quand même.
Et là on écoute Left Line Cruiser avec The Pusher.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G 120.5.
We'll be right back.
C'était Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture. Un mercredi sur deux sur Radio G.
Voilà, les semaines paires.
Ah oui.
De 19h à 20h.
On se retrouve dans 15 jours pour une spéciale Hellfest.
Voilà, spéciale Hellfest dans 15 jours.
On espère que Seb sera avec nous.
Ouais.
Yes, bien Seb.
Ben, en tout cas, un grand merci aux auditrices et aux auditeurs. À très bientôt.
Prenez soin de vous.
Ouais. Take care et enjoy.
Et restez à l'écoute de Radio G.
Ciao, ciao.
Salut.
FM.